Fréquence Mistral. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon épisode 10 de ma chronique radio Fréquence Mistral. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un ami, Armand. Salut Armand.
Salut Rémi, merci pour l'invitation.
Je t'en prie, merci beaucoup de l'avoir accepté, car en effet, tu as un profil vachement intéressant qui rentre merci. Parfaitement dans l'ADN de cette chronique radio que j'ai créée il y a maintenant plus d'un an et demi. Question très générale, Armand, qui es-tu, d'où viens-tu et quelle langue parles-tu ?
Donc, je m'appelle Armand, je suis né en Ukraine en 1993 à Odessa, qui est une ville très similaire à Marseille. Ma mère est d'origine russe et mon père d'origine arménienne. Et je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. Donc je suis né là-bas avec un parcours donc, de quelques années en Ukraine. On a fait quelques mois également en Arménie, là où j'ai appris l'arménien. Et donc j'ai grandi en France et maintenant j'ai 32 ans et voilà. Donc.
Super. Avant de commencer l'épisode, tu me parlais d'un dicton russe. Est-ce qu'on pourrait l'entendre ?
Oui, bien sûr. Alors c'est un dicton russe, donc je dis d'abord en russe, qui dit « Ni imei 100 rublei, a imei 100 друзей ». Ça veut dire « Il vaut mieux avoir 100 amis que 100 roubles ». Donc qui est la monnaie locale en Russie. Voilà, donc c'est un dicton qui montre la valeur qu'ont les Russes justement sur l'amitié et sur en général les valeurs et les vertus interpersonnelles.
Donc le russe est une langue que tu parles, évidemment le français. Qu'en est-il de l'arménien ?
Alors l'arménien, j'ai eu la chance de partir quelques mois en Arménie quand j'étais petit, donc j'avais 6 ans. Et justement, grâce à cette plasticité cérébrale qu'ont les enfants, j'ai réussi à apprendre l'arménien de manière parfaite en quelques mois. Pendant quelques mois, donc, j'ai vécu là-bas, je n'ai pas dit un seul mot en arménien. J'ai juste écouté comme un enfant qui était dans un environnement nouveau. Et un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé à parler au bout de 6 mois à peu près. Et de là, du coup, je me suis, entre guillemets, j'ai un peu englouti la langue grâce à l'environnement.
Ok, super. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de phrase ou de dicton en arménien ?
Alors, une phrase, je pourrais vous dire « Hayren shatla vaskanumem, baits mekich dejvar khosal ». Ça veut dire, en gros, j'ai un peu du mal à m'exprimer en arménien. Par contre, je comprends parfaitement.
Génial. Donc, tu parlais du début de ta vie à Odessa, donc d'une mère ukrainienne d'origine russe et un père arménien, c'est bien ça ?
Exactement. Ma mère, son grand-père a fui la Russie pendant la guerre bolchevique, donc en 1917. Et donc, il s'est installé là-bas. Et donc, mon arrière-grand-mère est née en Ukraine, ma grand-mère et ma mère, du coup. Et mon père, il a fait l'armée au temps de l'Union soviétique. Et donc, il est parti en Ukraine pour travailler après son service de 2 ans. Et ils se sont rencontrés, ils se sont mariés là-bas. Et donc, de là, on est né en Ukraine.
D'accord. Donc, par exemple, pendant les périodes de fêtes en famille, quelles sont les langues parlées à table ?
Alors, chez nous, on parle 100% en russe.
D'accord.
Parce que l'arménien, vu qu'on ne maîtrise pas tous, c'est plus simple en russe, même si bien sûr maintenant le français prend beaucoup de place. Voilà, avec mes sœurs, on parle en français. Avec ma mère, je parle en français, elle me répond en russe. Et avec mon père, je parle en russe.
D'accord, ouais. Ok, intéressant. Mais justement, c'est peut-être une bonne transition vers ma question, qui est une question très générale, mais en fait centrale de cette discussion. C'est, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu du rapport intime que tu as avec le français, le russe et l'arménien ?
Pour commencer, je pense que le russe, ça reste vraiment ma langue maternelle, vu que c'est la première que j'ai, on va dire, acquise. C'est une langue qui est un peu intime, c'est une langue qui se parle chez moi. C'est une langue que aussi je vais parfois pratiquer exprès, je ne sais pas, avec ma sœur quand on est dans la rue ou quelque part, pour pas qu'on nous comprenne. Donc c'est une langue assez intime,
pratique
aussi. Et c'est aussi une langue qui me lie à ma grand-mère. Ma grand-mère vit en France, elle ne parle pas français.
D'accord.
Donc si je ne parle pas russe, je ne pourrais plus le parler. Et c'est pareil aussi avec mon père. Donc c'est une langue très particulière que je perds un petit peu malgré tout parce que je ne pratique pas assez. Alors, parce que en fait, derrière, le français a pris beaucoup de place. Vu que j'ai fait mes études en France, le français est devenu ma langue numéro 1. Ce n'est pas juste une langue d'adoption, c'est une langue qui est ma personnalité maintenant. Puisque c'est la langue dans laquelle je réfléchis, je rêve, et aussi simplement parce que c'est là où j'ai le plus de vocabulaire, qui est beaucoup plus riche qu'en russe, et ce qui fait que voilà, le français a pris une place plus importante maintenant.
Ouais, ça me fait vraiment penser à quelque chose que ma mère dit souvent sur, tu vois, le fait qu'une langue est un lien inébranlable avec une personne, toi en l'occurrence ta grand-mère. Ma mère disait souvent qu'en arrivant en France, je me rendais compte que si mes enfants perdent l'anglais, je perds mes enfants.
Oui.
Parce que je ne serais plus en mesure de communiquer avec mes enfants.
C'est vrai.
Et s'il n'y a plus de communication, il n'y a plus de relation.
C'est vrai. Avec les parents ou même avec les proches, aussi avec les proches qui vivent là-bas. Moi, c'est le cas aussi avec mes proches en Russie ou en Arménie. C'est notre seul dernier lien. Alors, bien sûr, on pourra peut-être, avec la nouvelle génération, parler en anglais. Mais malgré tout, ça va quand même casser quelque chose. Donc, j'essaie quand même de le maintenir au maximum. Et l'arménien, c'est une langue très particulière pour moi aussi parce que c'est une langue de survie un petit peu culturelle. On est un petit peuple qui a été persécuté en plus. Il y a une très grande diaspora dans le monde. Ce qui fait que l'arménienne de base, au-delà de ce que moi j'ai comme lien avec l'arménien, ça reste une langue vraiment de survie qu'il faut maintenir, justement. Et ce n'est pas facile non plus, c'est sûr.
Est-ce que tu peux un petit peu expliquer cette démarche que tu as eue d'aller vivre un certain temps en Arménie? Tu m'as dit 6 mois?
C'est mes parents, ouais. C'est mes parents qui ont fait une... En fait, ils ont eu des petits soucis en Ukraine et donc ils ont voulu partir en Arménie pour voir si c'était pas mieux là-bas. Finalement, non. Ils sont revenus donc, d'Arménie et après, donc, ils sont partis en France grâce à un ami qui avait vendu un peu le projet. À la base, ils devaient partir aux Pays-Bas. Donc à la base, j'aurais dû grandir aux Pays-Bas. Je suis très content que ce n'est pas le cas, même si j'aime beaucoup Amsterdam et les
Pays-Bas. En bon Marseillais.
Non, honnêtement, la France, c'est un pays incroyable. Et donc, du coup, finalement, l'Arménie, ça a été une parenthèse pour eux, voilà, qui a été pour des raisons vraiment... qui étaient liées à des soucis. Donc, finalement, ouais, c'est une petite parenthèse qu'ils ont eue.
Ok, intéressant. Alors, c'est vrai que tu es donc né à Odessa. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que c'est une ville qui fait écho, je pense, à de nombreuses personnes qui s'intéressent malheureusement au conflit qui a débuté entre la Russie et l'Ukraine. On en a parlé tout à l'heure que cela aussi a bouleversé le rapport que des Russes et des Ukrainiens ont par rapport à ces deux langues respectives. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me donner un petit peu ton avis là-dessus, hein?
En fait, il y a eu un changement radical avec ce conflit où, de base, les Ukrainiens et les Russes sont des cousins. Donc beaucoup de Russes vivent en Ukraine, comme nous on l'a fait à l'époque, et c'est encore le cas. Et beaucoup d'Ukrainiens vivent aussi en Russie. C'est pour ça que dans les premières semaines même du conflit, beaucoup de Russes en Russie ont commencé à manifester pour dire, montrer un peu leur désaccord. Et même moi, j'ai vu en interne mes parents avec leurs amis s'embrouiller parfois parce qu'il y avait eu ce truc de les pro-russes, pro-ukrainiens, alors qu'au final, nous, on n'y est pour rien. Ce sont des décisions qui sont politiques, mais j'ai vu quand même beaucoup de choses se détruire et se casser. J'ai vu aussi quand même une assez forte russophobie qui s'est mise en place en Europe surtout, alors que pareil, les Russes n'y sont pour rien. J'ai vu des artistes être censurés alors que pareil, ils y sont pour rien. Donc voilà, on n'a pas très bien vécu de l'intérieur parce que on tient aux deux pays, aux deux cultures. Et maintenant en Ukraine, l'impact, c'est que maintenant le russe est de plus en plus effacé. Alors que c'était une langue qui était présente, qui était la langue numéro 2 à la base. Mais donc voilà, donc y a quand même ce conflit laisse pas mal de traces.
Avant le conflit, justement, quelle était la place, par exemple, de la langue russe dans le système éducatif ukrainien?
Écoute, si tu partais en voyage en Odessa, en Ukraine, à l'époque, tu pouvais parler russe 100% de partout. Parce que le russe était quand même la langue numéro 2 dans tous les pays de l'Union soviétique. Donc tu pouvais, dans pas mal de villes, parler uniquement en russe. Tout le monde te comprenait et c'était une langue qui était enseignée à l'école, en business. Enfin voilà, c'était vraiment extrêmement présent. Mais c'est plus le cas et de moins en moins le cas. Ouais.
Donc toi, tu me dis que tu parles russe à la maison. Tu es pour autant né en Ukraine et tu as grandi les 6 premières années de ta vie. L'ukrainien, ça a été une langue que tu as maîtrisée, que tu as parlé à l'école ou même pas? C'était surtout
du russe? Non, du tout. Vu que nous avons bougé assez rapidement et que... à l'école, je parlais russe, du coup, ce qui a fait que l'ukrainien, j'ai aucun lien avec l'ukrainien, je ne parle pas la langue, je pourrais même pas te dire une phrase en ukrainien, donc c'est vrai que j'ai un rapport qui est très distant avec cette langue-là, pas avec le pays, mais avec l'ukrainien, ouais. Je ne pourrais pas dire même pas une phrase, je pense.
Tu saurais le comprendre tout de même, en partie ou non?
Par exemple, lorsque le président Zelensky parle à la télévision, je comprends quelques mots, parce que quand même les racines sont slaves, donc je comprends quelques mots, mais pas la phrase entière.
Ouais.
Non, du tout.
Non, je te posais cette question parce que j'ai un très bon ami polonais qui avait rencontré mon grand-père, qui lui est moitié anglais, moitié tchèque.
D'accord.
Et ça m'avait bluffé. Alors, je ne vais pas dire qu'ils aient eu une discussion poussée, approfondie, mais ils se sont respectivement présentés. Mon grand-père lui a par exemple dit qu'il venait visiter la famille, qu'il restait tant, qu'il avait fait ci, ça. Et mon pote, Cordiane, que je salue, lui avait répondu avec des phrases simples. Et ils parlaient deux langues différentes. Ils ont quand même eu un début de discussion, le tchèque et le polonais.
Alors, peut-être que les premières phrases de présentation... On se comprend, les bonjour, au revoir sont très similaires. Mais si tu causes un peu un sujet intéressant, je pense pas qu'ils pourront se comprendre. Ouais. Ça reste quand même des langues différentes malgré tout.
Ouais. D'accord. Ouais. C'était quand la dernière fois que tu étais en Ukraine?
Écoute, depuis que nous sommes partis, je ne suis jamais retourné.
D'accord.
C'est vrai que le contexte a fait que l'immigration, c'est jamais facile. Donc on n'a pas eu l'occasion. Quand je dis on, c'est surtout mes soeurs et moi. Ouais. Ma mère est revenue quand même souvent là-bas. Et on espère, après le conflit, revenir en vacances, que ce soit en Ukraine, mais surtout en Russie aussi. Même si tu peux aller en Russie maintenant, mais c'est vrai que ce n'est pas un contexte qui nous met à l'aise pour y aller. Ouais. Donc on attend vraiment la fin du conflit pour y retourner, quoi.
Tu as évoqué ta sœur à plusieurs reprises. Est-ce que toi, le rapport que tu as aux Russes et à l'Arménien, est-ce qu'il est partagé, identique ou différent chez ta sœur?
Il est différent. Elle est meilleure que moi sur le russe. Pourquoi? Parce qu'elle est plus âgée que moi. Donc à l'école, à l'époque en Ukraine, du coup, elle avait un niveau plus avancé que moi d'un point de vue éducatif, ce qui fait qu'elle a un meilleur vocabulaire que moi en russe. Donc elle maîtrise mieux le russe que moi parce qu'elle était plus grande. Par contre, l'arménien, non, parce que quand j'étais petit en France, j'ai fait partie aussi des scouts arméniens de France et ça m'a aidé à conserver un petit peu justement cette langue, alors que ma sœur, non. Ce qui fait que voilà, on n'a pas la même progression et le niveau dans ces deux langues. Ouais.
D'accord. Ouais. Et le voyage en Arménie, ta sœur était donc aussi plus âgée. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des souvenirs similaires de ce voyage ou non ?
Non. Étant donné que ma mémoire est encore moins mature que la sienne, j'ai, on va dire, un grand trou noir. J'ai quand même, bien sûr, des pics de souvenirs qui sont liés souvent à des émotions, que ce soit négatives ou positives. Souvent, le cerveau retient plus facilement ce type d'événements. Mais j'ai quand même des petits flashbacks, bien sûr, ouais. Que ce soit une glace avec ma tante ou des anniversaires ou des joies ou des pleurs. Donc, ouais, j'ai quelques souvenirs quand même. Ouais. Ouais. Mais j'étais encore assez jeune.
Ah, super. C'est vrai que moi, la richesse de ces discussions que j'ai pu avoir avec ce projet radio, ça a été de discuter avec des personnes, donc voilà, avec des origines diverses, bilingues. Mm-hmm. Qu'est-ce que toi te frappe le plus lorsque tu rencontres quelqu'un qui a grandi et qui vit avec deux langues différentes?
Ce qui me frappe, c'est qu'on a un peu de la même réaction. Je ne sais pas si tu te souviens du film X-Men, où quand des mutants se rencontrent, ils sont surpris, étonnés et ils sont hyper contents parce que du coup, il y a une forme d'empathie qui est assez évidente. Et donc, ce qui me frappe, c'est que forcément, on va échanger rapidement sur... Ouais, c'est ces vies assez complexes qu'on va avoir entre le pays d'adoption, la langue d'origine, les parents, la culture. Donc ouais, il y a une espèce de joie, un enthousiasme qui se met en place rapidement. Et en fait, la discussion peut durer très longtemps, ouais, assez facilement.
Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Non, moi, ce qui me fascine, c'est des points en commun, malgré des histoires de vie totalement différentes. Tu vois, toi qui me parles du rapport avec ta grand-mère, ça m'a de suite fait penser à la phrase que dit ma mère par rapport à cette préservation parfois très... défensive de la langue anglaise. Mmh. Et ce n'est pas la défense d'une langue, c'est la défense de son identité dans un pays, la France, qui n'est pas le sien. Aussi accueillant ou pas par ailleurs parfois que les gens ont été dans ce pays, conserver l'anglais est un enjeu mais primordial, identitaire. Et avec toutes les discussions que j'ai eues, notamment ici à la radio, mais aussi que ce soit avec mes amis au lycée, c'était un rapport souvent différent d'une langue à l'autre en fonction des expériences familiales, des expériences de vie. Tu as évoqué la guerre en Ukraine, tu as évoqué le génocide arménien, les différentes souffrances que malheureusement ces peuples ont vécues. Cela formate d'une certaine manière le rapport qu'on a à une langue.
Bien sûr. Et tu le vois aussi par rapport aux parents, parce que des parents parfois ont peur de la langue d'origine. Du coup, il faut en sorte qu'on ne parle pas la langue à la maison, qu'on ne parle qu'en français. Et nous aussi, souvent, entre personnes bilingues, on va aussi avoir ce truc de se dire... Quand nos enfants vont naître, est-ce qu'on va faire l'effort de réussir à leur transmettre la langue ou pas? Et ça, c'est aussi une question primordiale à se poser, je pense, plus tard. Forcément, on aimerait bien le faire, mais ce n'est pas facile selon avec qui tu es en couple, etc. Donc, mais c'est aussi une question qu'on se pose souvent. Quoi, ouais.
Absolument. Donc, on a l'habitude de finir ces épisodes avec une musique. Tu m'en as envoyé une. Est-ce que tu pourrais nous la présenter et dire pourquoi tu as choisi cette musique-là?
Oui, c'est une musique qui s'appelle Dark Knight, donc Nuit sombre, de Mark Burns. Alors, c'est pas lui qui a écrit la musique, il l'a interprété dans un film qui s'appelle Deux soldats. C'est un film qui est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est l'histoire d'un soldat qui écrit une musique dans les tranchées. Et donc, forcément, Nuit sombre, parce qu'il est là avec son collègue, il chante la chanson. Et ben, voilà, t'entends les balles passer. C'est un contexte de solitude, de froid, de aussi ce questionnement entre la vie et la mort qui est tellement proche. Et c'est une musique ouais, qui est un petit peu mélancolique et triste, et qui aussi, peut-être pour moi, résume un petit peu l'histoire de la Russie, qui voilà, est remplie de conflits, de sang, de révolutions, de froid. Le froid a aussi un impact très important sur le moral. Et donc, c'est une musique qui me rappelle vraiment ouais, ce côté vraiment très russe, quoi, donc, ouais.
On écoute ça.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружит. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.